Le Codec Nous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 281e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Ce soir, comme toutes les dimanches de semaine pair, je suis avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Nous allons donc vous narrer les actualités dans Liberté Numérique. Des deux semaines écoulées, on va commencer par un grand cocorico avec notre ministre d'extrême droite de l'Intérieur, j'ai nommé Bruno Retailleau. Le Vendéen, j'ai rien contre les Vendéens, mais il y a un gisement quand même. On me rétorquera qu'il y a Clémenceau tout de même, mais bon, de Villiers, Retailleau, ça fait déjà... Bon, ça va être dans le Pas-de-Calais, bref. Je ne m'étendrai pas plus là-dessus, donc à l'occasion donc, de l'examen au Sénat du projet de loi contre le narcotrafic, donc devenu une priorité nationale. On ne se prononcera pas sur le bien
oui,
fondé.
Il y a du
pour et du contre, on va dire. Sauf que forcément, on parle aussi de lutte contre les réseaux organisés, c'est même le principal objectif, et donc de pouvoir intercepter leurs communications dans le cadre des enquêtes. Et pour ça, M. Retailleau, il veut sa backdoor. Donc, proposition qui a été déposée dans l'article 8 ter de cette loi, donc qui a été soumise au Sénat. Et donc, M. Retailleau, on lui a expliqué qu'une backdoor, c'était idiot et que ça mettait en cause toute la sécurité des communications de manière générale. Alors, c'est très intéressant, expliqué par M. Retailleau. Écoutez, non, on ne va pas se mettre en milieu d'une communication. Non, monsieur, vous avez une plateforme, je cite M. Retailleau, vous avez une plateforme qui est capable de chiffrer une communication entre un individu A et un individu B. On ne va pas s'introduire au milieu de cette communication, on va demander à la plateforme de faire aussi un flux de l'individu A à l'individu C, qui serait donc les enquêteurs. Il n'y aura pas de faille, pas de backdoor, pas d'affaiblissement du chiffrement. Ça ne veut rien dire. Soit il n'a rien compris, et bon, ce qui serait compréhensible de la part d'un ministre de l'Intérieur, soit il se moque de nous.
C'est le principe. Non. Effectivement, ça n'affaiblit pas le chiffrement si tu considères qu'un extérieur qui soit ni A, ni B, ni C, effectivement, n'a pas plus de facilité à connaître le message. Mais
sauf que là, ça voudrait dire que le chiffrement se fait par les plateformes et non pas au niveau du client. Si ce que dit M. Retailleau est vrai, en fait, considérez que votre communication n'est pas réellement sécurisée, puisqu'en fait, votre service, votre opérateur de service peut donner les clés à n'importe qui.
Ouais, alors, j'ai des doutes sur la fiabilité de certains opérateurs quand même, déjà. Je rappelle que quand le logiciel est fermé, que les serveurs sont fermés, on ne sait pas non plus déjà ce qui se passe dedans. Mais oui, le principe est complètement dopé.
Si vous chiffrez vos mails avec GPG, la clé de chiffrement, elle est chez vous, votre clé publique et votre clé privée. Votre clé privée, vous gardez chez vous la clé publique que vous
donnez
distribuez.
À tout le monde.
Publique, pour ça. Bon, un jour, il faudra peut-être faire une déguicalisation, Pierre, quand même, sur ce sujet.
Refaire une déguicalisation.
Ou, à mon avis, elle doit être quand même assez lointaine.
Ouais, elle doit dater.
Parce qu'effectivement, c'est quand même pas intuitif. On donne sa clé à tout le monde et c'est sécurisé quand même. Donc, sur le concept, c'est pas évident. Et bon, il y a quand même un petit peu de mathématiques là-dedans. Donc, il y a une levée de bouclier, donc, notamment de la part des différents groupes d'opposition à l'Assemblée nationale. Et même donc, au sein du gouvernement. Donc, le secrétaire d'État au numérique, donc, Clara Chapaz, a manifester quand même des réserves, et également donc l'ancien patron de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui luttait déjà à l'époque quand il était en poste contre les backdoors, a fait plusieurs communiqués sur un réseau social professionnel qu'on ne citera pas. Mais Monsieur Retailleau veut quand même faire passer un autre dispositif qui est les boîtes noires. Il a expliqué que, bon, en fait, une boîte noire, hein, c'est, ben non, il n'y a aucun danger pour la vie privée. Parce que vous tapez cocaïne dans la boîte noire et ça va ressortir tout ce qui a trait à la cocaïne.
Oui, il me déprime à force, hein, ces gens. Pour juste dire un petit peu comment se prépare l'émission, moi, dans mes actualités, j'avais même pas sélectionné ça parce que ça me fatigue de toujours les entendre répéter les mêmes conneries à force.
C'est un petit peu le but. Si c'est un petit peu leur but, et que à force de répéter des mensonges, on finit par plus y prêter attention.
C'est ça, mais ça va finir par marcher à l'usure.
La lutte contre la fatigue informationnelle, Pierre.
Exactement. Mais ils nous usent. Hein.
On reste en France, et donc bon, on a eu. Alors c'est vrai que le trafic de drogue c'est assez nouveau, c'est assez récent. Parce qu'avant c'était, oui, mais on était plutôt terrorisme ou pédopornographie. Là, on va revenir sur un bon vieux sujet là. Pornographie, donc le retour du blocage de sites pornographiques, Pierre.
Ben oui, mais voyons, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé des sites pornographiques.
Il y a eu une tentative de blocage, donc je crois que c'était par DNS.
Non, mais c'est...
Il y a eu, je crois, c'était, je ne sais plus, il y a un an, on en a parlé, il y a 6 mois.
Oui, on en a parlé il y a un an, et c'est la technique de blocage qui sera utilisée de toute façon, parce que c'est la technique de blocage qui est utilisée en France, c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres. En fait, tu peux pas faire autrement pour bloquer un site. Malheureusement ou heureusement. C'est le principe d'Internet, c'est d'être résilient. Et comme un serveur avec une adresse IP peut héberger une infinité de sites, si tu veux pas surbloquer, tu es obligé de bloquer au DNS. Et donc, bah là, c'est des sites sur lesquels la menace planait depuis un certain temps.
Je comprends pas, parce que dans la liste, je pense qu'il y en a certains qui étaient déjà bloqués par DNS. Alors, j'ai pas tout compris.
Non,
je l'avais déjà annoncé.
Ouais, ça avait été annoncé, mais il n'y avait pas eu d'arrêté, ça n'avait pas encore été validé. Et parce que les sites avaient encore le droit de répondre, globalement.
On va retrouver nos actualités.
Voilà, en fait, ce blocage a commencé en 2024, mais c'était pas fini, on va dire. Et là, la tactique a changé en utilisant plus l'ARCOM pour pas devoir passer par un tribunal. Et accessoirement aussi, c'est pas les mêmes sites qui sont ciblés. Là, il y en a plus.
C'est pratique, hein, les autorités administratives.
Oui, voilà. Et donc, il y aura probablement d'autres listes. Et puis, ça veut dire que, c'est encore une fois, ce blocage par DNS, ça ne marche pas.
Ça marche pour monsieur tout le monde.
Voilà. Alors, 1, 2... je tape DNS paramètres. C'est là. 3 clics, c'est ici. Il y a 3 clics pour savoir.
Voilà. Il y a 3 clics pour le savoir. Il faut le savoir.
Oui.
Il faut savoir ce qu'est un DNS.
Voilà, mais en fait.
C'est quand même. Entre savoir le faire et savoir que ça existe et savoir comment ça marche, c'est quand même.
Oui, mais ce qu'il y a, c'est que, je veux dire, les tutos pour dire de faire ça, ils vont être assez fréquemment...
Disons que si l'ado est un petit peu dégourdi...
Oui, puis il faut chercher pourquoi l'accès au site pornographique est bloqué. Voilà la réponse.
Bon, alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, ça peut empêcher des accès accidentels.
C'est vrai que tout le monde peut glisser sur un site pornographique. Non, mais... c'est très fréquent. C'est vraiment le principal danger.
La personne motivée, par contre, effectivement, n'aura aucune difficulté à le contourner.
Exactement. Donc, voilà, c'est le blocage pourrait vraiment se déployer prochainement. À suivre.
Pierre, on part aux États-Unis, en Italie, on reste en Europe, on traverse tout de suite.
On va faire les deux avec Google.
On va faire les deux avec Google. Ouais, c'est vrai que ça beau être en Europe, il y a un côté américain.
Voilà, c'est là on couvre les deux. Donc deux histoires par rapport aux problématiques d'abus de position dominante de nos amis de Google. Donc tout d'abord, il y a eu confirmation en Italie. Alors là, pour le coup, c'est Android Auto qui a été condamné pour abus de position. Enfin, Google a été condamné pour abus de position dominante avec Android Auto. Parce que Android Auto refusait des applications tierces pour bénéficier aux applications de Google. Donc en l'occurrence, c'était des applications de recherche de bornes électriques qui étaient refusées parce que Google avait un intérêt à ce que les gens passent par Google Maps.
En sachant que la principale alternative à Google Maps dans Android Auto, c'est Waze, et Waze appartient à Google.
Oui, évidemment. Donc, problème. Et donc, les deuxièmes histoires d'abus de position dominante, et celle-là, elle va...
Elle pique un peu plus.
Elle pique. Alors, je sais pas à quoi, je sais pas trop à quoi m'attendre encore. Donc, avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, on s'attendait à ce que le procès, on savait pas dans quelle direction ça allait aller, parce que changement de ministère de la Justice, et on savait pas s'ils allaient pencher pour ou contre Google. Du coup, on a la réponse. Ils sont contre. Voilà. Donc, ça va faire mal à Google, apparemment. Donc, l'abus de position dominante.
Ça valait bien le coup de failloter en renommant, enfin en affichant le renommage du Golfe de Mexique en Golfe d'Amérique qui a été décrété par.
On en a un autre après, t'inquiète. Honnêtement, je trouve que c'est. Ils sont. On en parlera après. Et donc, dans le cas de l'abus de position dominante, ce qui est demandé par le département de justice américain, c'est tout simplement que Google ne puisse plus payer de partenaires pour la mise en place de leur moteur de recherche, notamment que Google ne puisse plus payer Apple ou Mozilla pour que son moteur de recherche soit mis en avant.
C'est comme une des principales sources de revenus de Mozilla, d'ailleurs.
C'est pour ça que ça me fait grincer un peu des dents, ça me fait un peu peur. Mais bon, effectivement, il y a un problème de concurrence s'il n'y a pas ce genre de choses. Et deuxième chose, surtout, ils devraient se séparer de Chrome,
qui est quand même un de leurs principaux outils de l'abus de position dominante.
Exactement, tout à fait. C'est
avec leur moteur de recherche.
Oui, oui, c'est clairement, il faut que ce soit fait pour que pour qu'il y ait une vraie concurrence sur le domaine. Mais si Google devait se séparer de Chrome demain, je t'avoue que je suis très circonspect. Déjà, qui va racheter Chrome ? Ça pourrait très bien être un Microsoft ou un Apple qui rachète Chrome. Parce qu'il faut avoir les reins financiers pour faire ce genre de rachat. Il faut avoir une entreprise qui fasse du logiciel pour avoir la culture, les compétences, l'appétence pour gérer ce genre de projet. Et derrière, qu'est-ce que ça va devenir pour le côté libre ? Non, arrête.
Pardon.
C'est notre désespoir. Non, il y a une vraie question, du coup, là-dessus. A priori, la scission d'Android ne serait pas à l'ordre du jour. Google a finalement dit « Ah non, mais vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas bien pour l'innovation. »
Si je comprends bien, Pierre, tu préfères encore voir Chrome dans les mains de Google ?
Non, je ne préfère pas voir Chrome dans les mains de Google, mais je me demande juste dans quelles mains ça va arriver, si c'est là, tel que ça a été dit, c'est « Il faut que quelqu'un vienne pour racheter, grosso modo. »
Et ce ne sera pas le même actionnaire.
Ce ne sera pas le même actionnaire, mais ça veut dire que ça part chez quelqu'un qui doit déjà exister et avoir la capacité d'acheter Chrome. Il n'y a pas des masses d'entreprises pour ça. Et je suis très curieux de savoir comment ça va se passer du coup derrière. Donc ça va être à suivre cette année. Hein. Ça va se dérouler dans l'année qui vient normalement.
On continue avec les États-Unis, Pierre ?
Oui, on continue avec... avec quoi aux États-Unis ? On en a plusieurs. On parle de...
L'intelligence artificielle.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, j'ai pas envie, en fait. Il me fatigue à force. Donc, intelligence artificielle, on va commencer une toute mignonne, une toute petite. Des journalistes, des internautes se sont rendus compte que Grok, l'intelligence artificielle de Twitter, oui, enfin de X, a une consigne très claire, c'est elle ne doit pas mentionner, enfin elle doit ignorer toute source d'information qui indique que Donald Trump et Elon Musk sont des sources de fake news, de désinformation.
Est-ce que ça doit aussi censurer toute source qui dit qu'ils sont censés lutter contre, ils prétendent lutter pour la liberté d'expression ? C'est quand même bizarre, ces gens qui réclament la liberté d'expression pour la supprimer à leurs opposantes qui sont au pouvoir.
Oui. Donc voilà, celle-là est rigolote.
N'est-ce pas le point ? Merci.
Voilà. Allez, une autre rigolote. Donc on parle de l'intelligence artificielle qui génère des articles en masse sur Internet, etc. Et donc on a eu un cas assez rigolo où, alors c'est remonté jusqu'au, je crois que c'est un ministère. Oui, c'est le ministère de l'écologie qui est en charge de ça, qui a dû faire un démenti pour dire non. C'est pas vrai. Donc, des sites de génération de contenu, des sites de génération d'actualité par intelligence artificielle, donc des sites de génération de fausses actualités, oui, en quelque sorte.
Ce qui pollue de plus en plus nos recherches en ligne.
Exactement. Et donc, ces sites-là...
Quand Google décide de ne pas polluer directement avec ses suggestions de réponses. Mais c'est un autre sujet.
Autre sujet. Et donc, ces sites ont généré une fausse actualité en disant ben, certains véhicules vont avoir leur contrôle technique tous les ans. Et ben, vlatipa que des vrais journaux ont repris cette fausse information, sans citer leurs sources. Et donc, du coup, ben, on est arrivé au point où des sites officiels... Alors, officiels, faut pas déconner non plus, quelqu'un qui fait bien son travail, normalement... Il se rend compte, mais là en l'occurrence, ça a été 20 minutes.
Donc c'est quand même normalement un média relativement sérieux, 20 minutes.
Voilà, tout est dans le relatif, ouais. Toujours. Donc c'est allé jusqu'à 20 minutes et divers sites qui ont repris l'information depuis, notamment l'automobiliste.fr. Et scandale, oh mon dieu, ma liberté de faire vroom vroom, tout ça, machin, comme d'habitude. Ouais. Donc voilà.
C'est comme ça que se retrouve. Alors je pense qu'il y a aussi. En fait, l'IA se comporte de plus en plus comme humain. Il lance des rumeurs infondées basées sur des sources foireuses. C'est pour ça que des journaux comme voilà, je vois souvent donc le quotidien régional, hein, on est basé à Lille, La Voix du Nord régulièrement, non, c'est pas vrai, ils sont obligés de démentir à l'usage de leurs lecteurs des rumeurs à la con. Et typiquement, il n'y en a pas une comme ça d'ailleurs. Mais bon. Typiquement, le genre de rumeur que la presse régionale, que ces vrais journalistes, est obligée donc régulièrement de démentir.
Eh oui. Mais en fait, il y a un vrai problème autour de la génération de contenu par les intelligences artificielles. C'est impossible de savoir ce qui est généré par les intelligences artificielles. Alors il y a un site, donc on en a parlé là, il y a deux semaines je pense, Next Impact, qui a mis en ligne une extension pour Chrome et toute la famille dérivée de Chrome et Firefox, qui repère les sites à base de d'intelligence artificielle. Donc
en général une lecture assez rapide se met la puce à l'oreille.
Oui, c'est quand même, si tout le monde utilisait ce genre d'extension, ça serait déjà un poil plus efficace. Et dans l'eau, il faut pas croire, ça commence aussi.
Quoique des fois, j'hésite entre AI et traduction foireuse.
Des fois, oui.
Mais aussi, c'est pas tout. L'IA générative a fait des progrès, mais il y a déjà 10 ans, beaucoup d'articles, ça semblait être fait de manière automatique. Hein.
Oui, continue, effectivement, mais c'est un vrai problème. J'ai pas d'autres. J'ai pas de truc positif à dire sur tout ça. Allez, on va continuer juste un dernier sur l'intelligence artificielle qui fait peur. Donc, on s'est rendu compte qu'un groupe de désinformation pro-russe, donc Portal Combat, a réussi à polluer un ensemble de chatbots de différentes entreprises d'intelligence artificielle générative, notamment pour générer cette magnifique phrase. J'essaye de la retrouver. C'est... Ah merde, je l'ai plus, c'était en anglais. Mais en gros, pour dire du bien de, par exemple, Mein Kampf. Pour dire que c'est un livre très intéressant et que, franchement, c'est pas mal.
En même temps, en général, l'histoire, ils s'en foutent un peu, mais des Russes qui font la promotion de Mein Kampf.
Oui, mais sauf que là.
D'un point de vue historique.
Ça, on va pas en parler. Mais en fait, là, surtout, ce que je trouve, moi, vraiment inquiétant, c'est que. Comme ils ont contaminé l'intelligence artificielle, c'est pas eux qui ont fait la chose, c'est l'intelligence artificielle qui a fait les conneries pour eux. C'est encore plus drôle.
Il y a quand même quelque chose auquel Hitler s'attaquait. Hein. Les Juifs.
Et les Soviétiques.
La France. La France, beaucoup. Les Juifs, la France, la démocratie et les Slaves.
Les communistes aussi. Bref. Une petite pause peut-être.
Allez, on va clore le sujet avec la rubrique nécrologique Skype.
Être abandonné par Microsoft. J'avais oublié. Une
dizaine d'années après avoir été racheté par Microsoft, donc le service en téléphonie emblématique, le milieu des années 2000
jusqu'au Covid. Au Covid, il a revécu un petit peu, puis maintenant c'est
réputé pour s'infiltrer, passer tous les firewalls et sécuriser votre connexion Skype, passer tout le temps.
Voilà, c'était le problème à l'époque. Maintenant, de toute façon, ces trous sont officiels, ça s'appelle les navigateurs web. Pardon. Mais voilà, c'est la fin de Skype. Et donc, des utilisateurs de Skype, notamment, qui avaient le système de numéro de téléphone aux États-Unis, tu pouvais avoir un numéro de téléphone Skype, en fait. Ben, ces utilisateurs-là se retrouvent bien embêtés. Donc, Microsoft avait racheté, pour rappel, Skype 8,5 milliards de dollars en 2011. Je ne sais pas s'ils en ont eu pour leur argent. Mais pour une fin comme ça, ça fait un peu...
Ça, c'est assez brutal, parce que...
Ils ont 60 jours pour soit migrer à Teams, où toutes leurs données seront conservées, soit exporter leurs données ailleurs. Ouais. Mais en fait, c'est juste que ça leur coûte du pognon.
Oui, non, mais c'est le délai de privé, en fait, de préavis, en fait, qui est assez surprenant.
Ah, oh, écoute...
Quand tu annonces ça un an, deux ans avant, quoi, pas deux mois. Enfin, c'est très abrupt, je trouve. Enfin, bref.
C'est du privé, mec. Qu'est-ce que tu crois? Le marché, monsieur, le capital.
Nous allons, sur ces belles paroles, Pierre, écouter un premier morceau de musique. Nous allons donc écouter tous ensemble Occasionally Humans, Waiting and Wanting. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique. Restez campuslille.com.
You say
C'était Occasionally Humans Wanting and Waiting. Vous écoutez l'Écodez-nous sur Radio Campus. C'est l'heure des actualités sécurité. On va commencer par Qualcomm qui propose enfin 8 ans de mise à jour pour ses puces. Alors, c'est peut-être pas l'actualité auquel vous pensez le plus si on demande les priorités, mais Pierre va nous expliquer en quoi c'est important.
Alors, en quoi c'est important et aussi en quoi c'est un peu triste quand même.
Bah non, mais c'est triste.
Non, mais on est en 2025, il a fallu attendre 2025 pour que l'un des principaux fabricants de puces haut de gamme pour téléphone portable annonce « Ouais, on va faire 8 ans de support pour nos puces. » 8 ans, c'est-à-dire que pendant 8 ans, ils vont garantir les mises à jour de sécurité pour toute la partie logicielle qui est spécifique à leurs puces et que eux seuls peuvent développer et maintenir. C'est la moindre des choses, en fait, de la part d'un fabricant et... Enfin, on a ça. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a plein de fabricants de téléphones Android qui n'ont pas ça. Maintenant, l'un des défauts, c'est que Qualcomm va donner aux fabricants de téléphones portables 8 ans de mise à jour.
Si les fabricants de téléphones portables veulent bien les déployer.
Tiens, il y en a un qui a suivi. Voilà. C'est le problème. C'est aussi pour ça que je trouve ça triste.
Bon, après, il y en a qui sont plutôt bons élèves. Bon, il y en a qui élèves, sont... les grandes marques.
Oui, les plus c'est cher, mieux c'est, encore pas tous. Bon. Mais voilà, c'est.
Il y a un fabricant coréen, toujours... leader du marché, qui est quand même, en général, plutôt bon élève.
Ouais, j'ai cru voir 2-3 infos où ils étaient en retard sur certaines mises à jour aussi, hein, tu sais.
Ah, je veux pas dire. Globalement, ils sont bons élèves, je veux pas dire qu'ils sont parfaits.
Mais le problème, c'est que c'est pourquoi ce n'est toujours pas obligatoire pour les fabricants d'avoir un tel suivi de leur matériel.
Avec en plus, si vous avez acheté votre téléphone via votre opérateur mobile, il y a en plus le temps que...
C'est encore le cas, ça, aujourd'hui ? Quand même pas, si.
Préjugé ? Écoute, en même temps, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu de téléphone portable acheté via un opérateur, et je pense que c'est aussi le cas de plus en plus de personnes. À vérifier. Petit pan sur le bec.
On verra.
Un pan sur le micro.
Ouais, par contre, moi, je ne vais pas aller acheter un téléphone portable pour vérifier. Hein. Tu te débrouilles.
Alors, on parlait de backdoor, backdoor française, on parlait de porte dérobée anglaise.
Exactement. Donc, le Royaume-Uni a demandé à Apple de mettre en place une porte dérobée dans son chiffrement. Donc le chiffrement, on en avait parlé il y a 2 semaines ou il y a 1 mois, le chiffrement pour les sauvegardes de iCloud. Donc Apple s'y oppose forcément, donc ils ont lancé une contre-attaque au tribunal, on ne sait pas ce que ça va donner. Pardon. Donc à suivre là-dessus, sur ce côté-là, mais il y a quand même quelques trucs qui inquiètent, c'est que finalement il n'y a pas tant de gens que ça qui sont inquiétés du fait que l'option de chiffrement de bout en bout de leur sauvegarde iCloud est disparue. Parce que Apple a décidé, on ne va pas mettre une faille de sécurité pour tout le monde, interdire aux utilisateurs anglais le chiffrement, on va leur retirer la fonctionnalité de sécurité.
Et ça n'a pas inquiété grand monde.
Ben voilà. Et en fait, ils se rendent compte que si on donne le choix aux gens entre... la vie privée ou le service en ligne, les gens préfèrent garder le service en ligne, quitte à prendre des risques pour leur vie privée.
On continue avec les backdoors. Et y aura-t-il une backdoor dans une puce Bluetooth énormément utilisée ?
Alors, c'est au conditionnel. On va expliquer un petit peu pourquoi. Donc, c'est sur les puces ESP32. Et donc, qui sont utilisés dans des milliards d'appareils. Et donc, plus précisément, dans la puce Bluetooth, on s'est rendu compte qu'il y avait des commandes non documentées au niveau Bluetooth. C'est-à-dire que votre puce là, est en train de faire sa vie de petite puce. Voilà, elle est sur la carte, elle est allumée, elle communique avec un autre appareil peut-être, ou que sais-je. Et puis là, un tiers peut lui envoyer des commandes en Bluetooth sans être appairé à la puce. Et on ne sait pas ce que font ces commandes. C'est ça le problème. C'est des commandes non documentées, non officielles. On ne sait pas. Et pour le coup, donc la grosse suspicion, c'est qu'effectivement, ça puisse être une backdoor. Sachant que les puces en question gèrent aussi du Wi-Fi, ça peut être même assez intéressant à exploiter comme attaque. Donc, on ne sait pas aujourd'hui, alors ça m'embête un peu sur l'actualité pour dire, on ne sait pas ce que ça fait, mais on sait qu'il y a des.
Mais est-ce qu'on a des exemples ou le type de matériel qui sont fréquemment équipés de ces puces?
Non, je t'avoue que je n'ai pas cherché de. Alors, dans tout ce qui est do-it-yourself et tout ce qui est bricolage du dimanche, on va dire, on utilise ça extrêmement souvent, c'est les ESP32, c'est très fréquent. Et après, en fait, tu peux. Ben, souvent, en fait, on ne sait pas quelles puces exactement sont utilisées dans les appareils, sauf à tous les démonter. C'est un peu compliqué, ça, malheureusement. Donc, on ne sait pas exactement qui, mais c'est des microcontrôleurs qui ont été vendus en milliards d'exemplaires.
Une nouvelle qui va te réjouir, je pense, Pierre. Google va enfin arrêter l'authentification par SMS, enfin, pour Gmail, la méthode SMS pour l'authentification à double facteur.
Tout à fait, ça aurait pu me réjouir.
Ça aurait pu, mais ça ne te réjouira pas pour une raison que tu vas nous présenter.
Ben oui, ils vont remplacer ça par des QR codes. Et moi, j'ai pas compris.
J'ai pas compris non plus. J'avoue que j'ai vu la nouvelle, j'ai des QR codes, mais pourquoi?
Voilà, et j'ai beau avoir lu, j'ai toujours pas compris. Donc, je t'avoue qu'ils m'inquiètent beaucoup, ces gens-là. Alors, donc, de quoi qu'est-ce? Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la double authentification, c'est lorsque vous vous connectez, ben, par exemple là, sur Gmail, en plus de vous demander votre mot de passe, ça vous demande un code que vous recevez par SMS, parce que comme ça, ça prouve que vous avez bien votre téléphone, et donc, c'est une deuxième raison de croire que vous êtes bien vous-même, et que c'est bien vous, le propriétaire du compte, qui vous connectez, et pas un méchant pirate. Mais les SMS, on en a déjà parlé, c'est très faillible. Mais faillible au point que, pour la sécurité, c'est à éviter. Accessoirement, les SMS ne sont pas gratuits, donc il y a des raisons pour les grandes entreprises. Il y a une belle motivation, on va dire, à quitter les SMS. Maintenant, là, ce que compte mettre en place Google à la place, c'est pas clair du tout. Ils veulent mettre des QR codes. Et ça, j'ai toujours pas compris ce que c'est.
Moi, j'ai déjà eu des méthodes d'authentification où tu devais. Alors, c'est en double facteur, mais c'est quand tu es sur un poste de travail. Alors, quand tu dois envoyer un QR code, prendre en photo un QR code pour prouver que tu es bien devant la machine. Ce genre de choses.
J'avoue que moi, je vois pas l'intérêt de cette sécurité-là pour la protection au niveau de l'authentification de Gmail. Soit je vois pas l'intérêt d'un point de vue sécurité, soit ça va dépendre d'une application, d'une énième application mobile à avoir installée ou que sais-je encore sur le téléphone. J'avoue, j'ai du mal à suivre ce qu'ils vont faire et ça m'inquiète un petit peu.
La dégeekalisation, c'est après un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter Songwriters Live. Vous écoutez les codecs nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslib.com. Couldn't find my way. C'était Songwriters Live. Vous écoutez Décodez nous sur Radio Campus. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Pierre, on va parler de uBlock Origin. Je n'en dis pas plus, je te laisse développer.
Tout à fait. On a eu deux actualités sur ça et c'est l'occasion un petit peu de rappeler un petit peu le principe de la publicité en ligne. Parce que, ben, moi, quand j'ai vu passer ça dans les actualités, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas au courant. C'est temps de le rappeler, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'une publicité en ligne, mon ami ?
C'est une publicité qui s'affiche sur votre navigateur web.
Ça s'affiche sur ton navigateur web, tout à fait. Mais en fait, qu'est-ce qu'un espace publicitaire sur un site web ? Eh bien, c'est le site web qui loue votre processeur pour un publicitaire. Et qui loue des pixels dans sa charte graphique pour un publicitaire. Mais dans sa charte graphique, il loue des pixels, et sur votre machine, il loue votre processeur, votre bande passante, et votre RAM, un petit peu.
Et votre temps de cerveau disponible.
Accessoirement. Gardons ça dans un coin de la tête. Donc, on a parlé ces dernières semaines de Google qui bloque uBlock. Vous êtes relous, les mecs. De Google qui désactive l'extension uBlock Origin, l'un des principaux bloqueurs de publicité.
Bonne raison de passer à Firefox.
Voilà, excellente raison de passer à Firefox, au prétexte que c'est meilleur pour les performances du navigateur d'utiliser que le nouveau format d'extension, le manifeste V3 et le manifeste V2, et supprimer, déprécier, machin, tout ça. Microsoft suit le mouvement en commençant à désactiver aussi uBlock Origin dans Edge, ainsi que toutes les extensions, utilisant encore le manifeste V2. Firefox a clairement expliqué, ils ont dit, nous, on ne va pas le désactiver. Et vlati pas qu'une petite actualité est passée. Alors, ce que je trouve très intéressant sur cette actualité, c'est que c'est quelque chose qui a été constaté et on peut voir vraiment ce qui s'est passé. Et ça illustre le problème des publicités. Donc, comme je l'ai dit, une publicité... Un annonceur achète un espace sur un site web, il achète un bloc de pixels, mais surtout, il injecte ce qu'il veut pour faire tourner sur votre machine. Continuons. Donc, un monsieur, si vous nous écoutez, merci beaucoup d'avoir fait ce petit article, c'est très pratique. Un monsieur, dans son entreprise, a constaté, leur logiciel de sécurité a remonté des alertes avec un logiciel malveillant qui tournait sur différents postes de travail. Ils se sont vite rendus compte que ce logiciel malveillant a été installé depuis des publicités Google Ads dans les navigateurs web des gens en question. Publicités qui se sont affichées sur un ensemble de sites web. Alors, dans le lot, il y en a beaucoup qui sont clairement... moi, je m'attends à avoir des problèmes là-dessus. Effectivement, genre www.calendriergratuit.fr, file-examples.com, www.itinéraire-metro.paris, c'est pas le genre de site que, effectivement, je recommanderais à tout le monde. Là où c'est un peu plus compliqué, il y a des sites comme keepass.info, notepad++.org, france-cadas.fr. Au passage, ce genre de site n'existe que parce que nos chers ministères n'investissent pas un copec dans l'accessibilité des fonctionnalités des applications mises en ligne. Si le site du cadastre n'était pas aussi pourri, il n'y aurait pas besoin de concurrents qui pillent vos données, affichent des publicités et du coup diffusent des malwares. Hein. Mais bon, on ne va pas demander à un système libéral d'être intelligent.
J'ai déjà consulté le cadastre via les sites officiels. C'est un peu relou pour accéder jusqu'à sa maison.
Exactement, c'est parce que c'est relou que ce genre de site existe. C'est parce que c'est mal fait que ce genre de site existe. Il y a plein de fonctionnalités sur le site du cadastre, tu les connais ? Comment accéder à des informations sur la parcelle, des trucs comme ça. C'est tellement mal fait que tu les découvres à chaque fois que tu veux les utiliser si tu ne dois pas passer ton temps dessus. Bref, donc dans le lot, il y a des sites qui sont quand même des vrais sites. Ce n'est pas des sites contrefaits, c'est des sites utiles, des sites professionnels qui ont affiché des publicités de Google, ou plutôt qui ont utilisé Google pour afficher des publicités. Et ils se sont retrouvés quand même à diffuser des malwares, à diffuser des logiciels malveillants. Et les utilisateurs, on dit tout le temps à tout le monde, lorsque vous allez sur un site web, alors vérifiez le petit cadenas, pour ce que ça vaut maintenant, vérifiez dans la barre d'adresse le nom du site qui apparaît en surbrillance, donc là, ecodegnu.org ou chtinux.org, ce genre de choses, Et si c'est un site de confiance, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Mais là, avec les publicités qui injectent du contenu malveillant, et ben forcément, vous pouvez être sur le site le plus fiable du monde, vous allez recevoir des malwares. Et c'est tout le problème de la publicité. En fait, la publicité en ligne, c'est un contrat implicite où vous acceptez de faire tourner votre processeur pour le publicitaire et de lui faire exécuter ce qu'il veut.
C'est pour ça que ça marche chez Adblocker. C'est que comme c'est hébergé sur des sites tierces, ça bloque une liste de sites. Exactement. Si la publicité était directement hébergée sur le site, ça ne marcherait pas. D'ailleurs,
ça marcherait beaucoup moins bien. Ça serait beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et donc, bah, la remarque, la conclusion de cette personne, c'est que un outil comme uBlock Origin, en tout cas dans sa version actuelle, pas dans la version que Google veut brider, un outil comme uBlock Origin n'est pas un bloqueur de publicité, c'est un outil de sécurité indispensable. Et alors moi, c'est une vision que je défends depuis très longtemps. Je suis très ravi de voir que des gens se sont rendus compte que concrètement, que oui, c'était nécessaire.
Moi aussi, je suis très content quand je me rends compte que des gens sont d'accord avec moi.
Exactement, oui, ça fait toujours plaisir. Moi, j'avais déjà aussi parlé de l'importance du bloc origine. Je suis sûr que j'en avais déjà parlé dans cette émission, il y a probablement longtemps. L'importance du bloc origine pour rendre des machines utilisables quand elles commencent à être un peu limite en puissance.
Non, c'est bloc script dont tu n'as pas parlé depuis longtemps.
NoScript, tu veux
script,
dire.
Ouais.
NoScript, ouais. Non, NoScript, il est plus compliqué à utiliser quand même.
Ouais.
uBlock Origin, c'est facile. Vous l'installez, ça... Tout se configure tout seul, ça télécharge des listes de blocage et ça fait le job.
De temps en temps, il y a un site qui n'est pas content parce qu'il a détecté que vous utilisez un bloqueur de pub. Oh tiens, non, il y a un truc qui s'affiche là. Il a réussi à récupérer l'information comme quoi ça ne s'est pas affiché. Il
est
pas
et content. Du coup, vous cliquez sur le bouton pour afficher la publicité pour ce site, si ça pose problème. Et vous allez, en faisant ça, vous allez gagner en bande passante, vous allez gagner en mémoire, vous allez gagner en processeur. Le site ne sera plus... La monétisation du site va... mal fonctionner, mais en même temps, la monétisation du site doit-elle se faire aux dépens de votre sécurité informatique ? Alors, si vous faites attention, effectivement, parce que c'est des gens qui ont cliqué, genre la publicité affichée, cliquez ici pour afficher le PDF, ça télécharge un logiciel. C'est ce genre de conneries, et les publicités en question. Il ne faut pas se faire avoir, mais afficher ça à tout le monde, c'est un risque majeur pour tout le monde. Donc, un outil comme uBlock Origin est indispensable tant qu'on ne reviendra pas. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un retour à de la publicité raisonnable où le site vous affiche une image statique et n'a pas le droit de vous afficher plus qu'une image.
Je retiens une chose, c'est que de l'entreprise de ce monsieur, on peut installer les applications comme on veut sur son PC. Vous lancez des exécutables. Enfin, moi, je ne pourrais pas lancer un exécutable depuis mon PC bureautique.
Oui, toi, tu n'es pas vraiment dans une entreprise lambda.
Ouais, mais c'est n'importe quel. Pour moi, c'est quand même assez fréquent.
Ce genre de restriction a été introduite finalement relativement récemment dans l'histoire de Windows. Ça a été introduit à l'époque dans Windows Vista de mémoire, oui. Voire Windows 7.
Pour moi, c'est une pratique courante.
L'interdiction d'interdire de lancer n'importe quel exécutable sur une machine, on pourrait reparler plus longuement de ce genre de sécurité, ça pourrait être intéressant. Mais c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Si tu as un parc qui est vaste, avec des usages différents, c'est très compliqué. Pire, si tu as des applications métiers, si tu as des applications spécifiques, si c'est des postes de bureautique, effectivement, c'est très facile. Si tu commences à avoir de l'application métier, pire, qui doit être mise à jour régulièrement, là, c'est une tannée, parce que tu ne sais pas ce que vont intégrer comme nouveau programme ces applications métiers. Elles vont évoluer dans un sens que tu ne maîtrises pas. Et ça se produit dans des tas d'entreprises et dans des administrations. Si tu prends le cas d'une grande mairie, ils vont avoir des logiciels de gestion de cimetières, des logiciels de gestion de cantines, de scolaires, de gestion d'associations. C'est tout un ensemble de logiciels métiers qui ne vont pas rentrer dans le moule. Et donc, ce que tu indiques comme sécurité, ça ne s'applique pas forcément à tous ces cas.
Même moi, j'ai appris quelque chose. Merci Pierre. On retrouve des actualités de logiciels libres. La plupart. Après un troisième morceau de musique, nous allons écouter donc Gent, Disobeyed Sense. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campus.com. C'était Gent Disobedience. Vous écoutez les Codes et nous sur Radio Campus. C'est la dernière partie des actualités avant de parler logiciel. Petite nouvelle pas très sympa.
On en parlait tout à l'heure.
C'est triste d'ailleurs de la part d'Apple et Google qui ne s'opposent pas à Trump. Enfin, on ne s'entendait pas spécialement. Ben
justement, voilà, on en parlait tout à l'heure. Ils ne s'y opposent pas du tout, même. C'est quelque chose que je trouve fantastique.
Ils font même du faillotage.
Oui, ils vont assez loin dans le faillotage. D'ailleurs, on en avait parlé, alors je sais plus, c'est l'une des émissions précédentes de cette année, on avait parlé du fait que Google annonçait fièrement qu'il n'allait pas respecter la loi au niveau de YouTube et du DSA, je crois que c'était de ce côté-là qu'il y avait... Ils ont dit non, nous on ne le fera pas ça. Par contre, quand il s'agit d'une demande de Trump fort sympathique, à savoir s'opposer aux politiques de DEI, en anglais, donc les politiques de diversité, d'égalité, d'inclusion, là, il n'y a aucun problème. Et ils sont allés très loin, puisque Apple et Google ont décidé tout simplement d'effacer de leur calendrier la Journée internationale des droits de la femme. Ou des droits des femmes, je ne sais plus comment on doit la dire.
Du droit des femmes.
Ouais. Mais donc, voilà, je pouf. Et attention, on s'en est pas rendu compte parce qu'ils l'ont annoncé, ils n'ont pas fait une conférence de presse pour dire « Oui, alors, du coup, on supprime ça de nos calendriers, hein, on l'affiche plus. » Non, c'est... D'un coup, les gens se sont rendus compte « Tiens, ça apparaît plus sur iPhone, sur Mac, sur Android. »
Les gens se sont rendus compte.
Merde alors. Mais c'est pas grave, puisque ça correspond à la politique américaine actuelle, donc il n'y a aucun problème. Bravo, hein, c'est...
Donc le droit des femmes, le droit des minorités, c'est-à-dire les femmes dans les minorités, puisque les femmes sont une majorité, les minorités sexuelles, minorités raciales.
Voilà, on s'en fout, on peut les écraser, c'est ce qu'a dit Trump.
On revient au nouvel logiciel et Pierre, l'épilogue du feuilleton Rust dans Noyau Linux. Oui, c'est tout de suite un peu plus technique.
Oui, alors bon, on en avait parlé il y a 2 semaines, il y a eu un peu de drama autour de ce sujet, donc petit rappel des faits très rapidement. Le langage programmation Rust, c'est un langage programmation qui vise à améliorer la sécurité en évitant dans le langage lui-même tout un ensemble de failles de sécurité. Et donc... Dans le cas du noyau Linux, il a été décidé de commencer à ajouter la possibilité d'avoir du Rust dans le noyau Linux, mais pour l'instant c'est une possibilité, ça doit rester optionnel, mais il y a eu des gros débats ces derniers mois, parce que des changements étaient nécessaires sur une partie du noyau Linux pour permettre l'écriture de pilote en Rust, et le mainteneur de cette partie du noyau a dit « Non, je veux pas ». Donc ça a été assez loin. Il y a des mainteneurs de la partie Linux, Rust pour Linux, qui se sont barrés à cause de ça, qui ont eu ras-le-bol. Linus Torvalds, le fondateur de Linux, est intervenu en disant que le code en question devait être accepté, c'est tout. Et la conclusion du coup de tout cet épisode, c'est que le mainteneur en question a décidé d'arrêter et de démissionner de son poste de mainteneur de cette partie du noyau.
Linus Torvalds en ses qualités de dictateur bienveillant, on le rappelle.
Oui, mais et de mainteneur en chef du noyau. C'est bien entendu, attention, il n'a pas viré le mainteneur en question.
Il a décidé de ne plus.
Il a décidé d'intégrer le code, même si le mainteneur n'était pas d'accord, et du coup, le mainteneur a dit dans ce cas-là, je me barre. On ne l'a pas mis à la porte, il est parti tout seul.
Mozilla sort la version 136 de Firefox, donc le navigateur internet, Thunderbird, le client de mail. Et il y a une énorme confusion sur les conditions d'utilisation de Firefox, Pierre.
Ouais, j'aurais pas dû mettre confusion, c'est pire que ça.
Pire que ça.
Ouais, donc, on va pas parler trop longuement des sorties de Firefox et de Thunderbird. Il y a, dans le cas de Thunderbird...
Nous ne ricanerons même pas sur le 136.
Non. Et donc, dans le cas de Firefox, on peut noter par contre, pour Linux, quelques améliorations notables. Donc, une version officielle pour ARM 64. Donc, les gens qui sont avec des ordinateurs ARM, ou... Ceux qui utilisent des Raspberry Pi, par exemple, ce genre de choses. Voilà, il y a une version officielle Firefox pour ces derniers. Une amélioration du support de certaines cartes graphiques. Et enfin, l'intégration officielle des onglets verticaux. Plutôt que d'avoir une barre d'onglets en haut qui utilise un espace qui est rare sur nos écrans, à savoir l'espace vertical, ça le met sur le côté, donc ça utilise un espace qui est souvent gaspillé. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Par contre, là où il y a eu un gros problème, c'est autour de des conditions d'utilisation de Firefox. Donc, c'est assez moche ce qui s'est passé. Alors, ça a été changé, puis ils sont revenus en arrière, clairement. Hein. Mais la version intermédiaire, la version donc, qui a été là pendant une semaine, je crois, le temps que Mozilla se rende compte du niveau d'horreur et fasse marche arrière.
Il existait de vendre votre âme en échange d'utilisation de...
Ben, c'est pas loin. En gros, ça disait toutes les données que vous saisissez dans le navigateur web, ben, on peut s'en servir.
Là, il renvoie Google à la maternelle. Là.
Ah ouais, non, c'était grave. C'était pas possible. Et je sais pas quel juriste... Enfin, je sais pas quelle équipe...
Qui a glissé sur le clavier.
C'est grave.
Satané chat.
Ça a relancé le...
Il a marché sur le clavier.
C'est ça, non mais...
Tout n'est chaque touche.
C'est... Donc déjà, c'est la première fois qu'il y a des conditions d'utilisation au niveau de Firefox, et c'était...
D'ailleurs, c'est un logiciel libre, alors il n'y a pas de conditions d'utilisation.
Non, mais en fait...
La condition d'utilisation, c'est les quatre libertés. C'est la licence
sauf que Firefox est une marque déposée avec un logo déposé. Donc, ils peuvent passer par ça, notamment pour justifier des règles supplémentaires. Après, un logiciel
liberté
libre...
Liberté zéro du logiciel libre. Pierre, on va rappeler les fondamentaux, ça fait longtemps qu'on ne les a pas rappelés. Un logiciel est libre pour télé-usage. Et on en fait ce qu'on veut, la seule limite, c'est la loi.
Oui. Ils ont le droit de rajouter des trucs en plus à côté. Toi, tu as le droit de dire, bah non, j'ai pas envie, donc je prends le logiciel, je fais mon fork.
Pour toi, la version physique. Ouais, vas-y.
Ça va être iSweezel, par exemple. Je te rappelle qu'il est interdit, sur Haiku, par exemple, d'avoir le logo Firefox et le nom Firefox, parce que ce n'est pas un port officiel.
Oui, mais attention, c'est pas la même chose. C'est l'utilisation de la marque, c'est une chose, mais tu peux pas, pour moi, contraindre l'utilisateur à des conditions d'utilisation particulières. C'est antinomique du logiciel libre.
À suivre. Honnêtement, je sais pas comment ils comptent sortir ça. Là, pour l'instant, ils ont fait marche arrière, heureusement, parce que c'était n'importe quoi et on se serait retrouvé bien emmerdé entre Chrome qui est chez Google et Firefox qui tourne comme ça. Ça aurait été vraiment problématique.
Allez, une dernière. Est-ce qu'on parle de Microsoft? Est-ce qu'on parle de Wine? Microsoft ou en attendant Godot, est-ce qu'on parle de la version 10.3?
On va parler de Microsoft.
Ou la licence AGPL en danger.
Non, on va parler de Microsoft Office.
Allez, parlons de Microsoft
Office. Ça fait peur quand même, ce genre de nouvelles.
Il pourrait avoir une version gratuite.
Tout à fait. Donc, il a été possible, temporairement, ça a été un test de la part de Microsoft, d'avoir une version installable sur l'ordinateur de la suite Office gratuite. Gratuite, vraiment. Et pour le coup, ça fait très peur. Alors, c'est financé par de la publicité. Hein, il y a un bandeau publicitaire dans l'application qui prend bien une bonne partie de l'écran. Mais moi, ça me fait extrêmement peur parce que aujourd'hui, l'un des principaux arguments qu'on arrive à utiliser pour dire que il faut éviter notamment Office dans le monde de l'éducation, c'est dire oui, mais c'est un logiciel qui est payant derrière. Et la dose gratuite ou à prix réduit qui est poussée dans l'éducation, ça sert à enfermer les gens, à les enfermer dans des habitudes d'utilisation, à les enfermer dans des fonctionnalités logicielles et un agencement
spécifique. Et là, en plus, on veut vous enfermer dans le drive de Microsoft, puisque ça doit être un client lourd installé sur la machine. L'enregistrement se fait obligatoirement sur le drive de Microsoft.
Effectivement.
Je suppose qu'on peut les télécharger derrière sur le drive, mais quand même.
Oui, mais c'est histoire de complexifier une sortie du cadre de Microsoft Office, justement. Donc, moi, ce genre de petites nouvelles, ça m'inquiète beaucoup pour le logiciel libre, parce que, faut pas se leurrer, beaucoup de gens, dans le cas de LibreOffice, la bureautique, la fonction prime sur la licence pour beaucoup d'utilisateurs, et s'il n'y a plus la barrière du prix de Microsoft Office, je vois beaucoup moins d'utilisateurs qui vont basculer vers LibreOffice. Même si ça reste un combat d'arrière-garde de nos jours avec plein de gens qui sont uniquement sur des solutions en cloud à la Google Doc ou autre, il y a un vrai besoin d'outils de bureautique et aujourd'hui, il n'y a que LibreOffice en libre qui tiennent vraiment la route. Donc si Microsoft faisait ça, je t'avoue que ça me ferait un peu mal.
C'était l'essentiel de l'actualité en une heure. Dans les libertés numériques, on fait un petit point sur l'agenda avec l'agenda du livre, donc une sélection d'événements qui ont lieu donc, dans l'île et sa région, donc à Villeneuve-d'Ascq le samedi 15 ainsi que le samedi 22 mars, à chaque fois de 9h à midi. Donc un atelier libre à vous organisé à l'OMJC rue Yves de Cugis. Donc c'est à Villeneuve-d'Ascq, la ville où se trouvent donc nos studios. Permanence OpenStreetMap le mardi 25 mars de 18h à 20h au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille, métro République Beaux-Arts. Et ce sera donc le dernier mardi du mois. Et qu'est-ce qu'il y a aussi le dernier mardi du mois au Café Citoyen? Donc après la permanence OpenStreetMap aura lieu la permanence de l'association Stinux, donc qui prendra la suite de 20h à 22h. Et comme toujours, un magnifique choix de boissons bio et équitable, donc issu du commerce équitable, et comme d'habitude, une ambiance chaleureuse dans ce café. C'était le 281e numéro de l'Écho des Gnous. Vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento tout de suite. Nous, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour l'Écho des Gnous 282. Nous serons donc le dimanche 23 mars à 19h, comme d'habitude, en direct ou en différé, parce que moi je serai peut-être pas là, on verra, on en parle avec Pierre. En tout cas, on vous tient au courant.
Juste, c'est dommage que l'atelier OpenStreetMap il n'ait pas eu lieu à Villeneuve-Ascq, dans la rue de Cugis.
Oula, je ne l'ai pas du tout, Pierre.
QGIS, c'est un logiciel de cartographie, pardon.
Merci, là c'était comme une blague pour initier.
Oui, bah écoute, on a le droit, on est en fin d'émission.
Donc, musique électro tout de suite, dans une minute avec Chupa Pimento. Quant à Pierre et moi, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. Au revoir à tous.
Bye bye.
L'Écho des Gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'Écho des Gnous.